Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Hubert Védrine, avec lequel d'ailleurs je publie l'Atlas des crises et des conflits aux éditions Armand Collin, avec une magnifique cartographie de Jean-Pierre Magnier. Et on va parler bien sûr des crises et des conflits, mais du rôle, du poids que la France peut jouer dans ce cadre-là. Hubert Védrine, bonjour.
Bonjour.
Alors là, il y a quelques jours se tenait la conférence des ambassadeurs, exercice traditionnel, sauf que là, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait un discours remarqué, non pas tellement par sa longueur, presque 2 heures, mais surtout par son ampleur et par la volonté de donner un nouveau souffle à la diplomatie française. Est-ce que vous pensez qu'on serait dans l'acte 2, là je ne parle pas de politique intérieure, c'est un propos qu'on emploie souvent pour la politique intérieure, mais qu'on serait dans l'acte 2 de la diplomatie d'Emmanuel Macron?
Ça reste à voir, mais on peut se poser la question, puisque si on prend notamment le début de l'intervention du président devant la conférence des ambassadeurs, notamment tout le développement sur la Russie, notamment des formules genre par rapport aux États-Unis, amis, alliés, pas alignés, enfin, il y a plusieurs formules comme ça, il y a tout un développement que manifestement il a pas lu et il l'a pas improvisé comme ça. Donc c'est l'air d'être vraiment le résultat chez lui d'une réflexion depuis plusieurs années. Je crois savoir que déjà quand il était ministre, il n'était pas absolument convaincu par la position de l'Occident, de l'Europe par rapport à la Russie. C'est évident qu'il faut prendre des précautions extraordinaires par rapport à la Russie, mais la question n'est pas là. Donc oui, il me semble, sous réserve que ce soit confirmé par la suite, qu'il essaie de prendre le contrôle, le cap de la politique étrangère française, en hiérarchisant peut-être un peu autrement ses objectifs par rapport à ça. Il n'a pas parlé de tout, mais là on parle spécialement de Russie.
Oui, d'ailleurs dans votre atlas, vous consacrez de nombreuses pages aux crises qui concernent la Russie, l'Europe,
oui,
l'Ukraine, la
toute
Syrie.
La périphérie de la Russie, oui.
Voilà. Alors, il a également, au cours de la campagne électorale de 2017, il s'était référé à 3 reprises au gaullo-mitterrandisme. C'est une notion que vous avez vous-même développée. Et là, il a été un peu plus loin, puisqu'il a même, dans son discours, dénoncé un état profond qui l'empêcherait ou qui voudrait entraver une politique qui aurait déterminé la guerre de la Russie, cet état profond qui voudrait un peu entraver une nouvelle politique russe de la France.
Alors, dans sa façon de parler de la Russie, il prend clairement le contre-pied, donc c'est pas une simple adaptation, comme disent certains, le contre-pied de ce qui a été fait depuis 12 années. Disons depuis Sarkozy-Kouchner, Hollande-Fabius, il est sur une autre ligne. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment ça va se concrétiser. C'est vrai que pendant la campagne électorale, comme vous le rappelez, il avait évoqué le gaullo-mitterrandisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tout un débat mais historique. Le gaullisme et le mitterrandisme, c'est un peu loin. Le lien entre les deux, moi j'ai défendu l'idée d'un lien entre les deux dans certains domaines. Et il avait, ajoutons à votre remarque, qu'il avait condamné le courant du néoconservatisme venu des États-Unis, qui s'est répandu beaucoup en France, dans le corps diplomatique, mais pas que là, à la Défense, dans les think tanks, enfin la majorité des think tanks, pas tous, dans pas mal de milieux, et qui en gros considère que l'Occident est entouré d'ennemis, et que l'Occident doit être homogène, qu'il ne faut jamais critiquer Israël qui est en première ligne, et qu'il ne faut pas de politique étrangère française trop originale, trop perturbante par rapport à cet ensemble. Ce n'est pas des atlantistes au sens classique, au sens que dénoncerait un Régis Debray, par exemple. Parce qu'ils ne sont pas alignés sur Washington, ces gens. Ils l'ont été peut-être à un moment donné. Ils l'étaient encore avec George W. Bush, pas du tout avec Obama, au contraire, et même pas avec Trump, qui ne veut pas du tout faire la guerre partout pour imposer la démocratie. Ils sont occidentalistes par eux-mêmes. Bon. Alors ça, c'était dans le paysage. Mais quand Emmanuel Macron, candidat, avait dit ça, aussitôt, ça avait déclenché dans l'année suivante, 2017-2018, plusieurs articles pour attaquer le gaullo-mitterrandisme. On peut se demander pourquoi, parce que c'est un débat très intéressant, historique. Qu'a fait De Gaulle, qu'a fait Mitterrand, qu'est-ce qui est dans cette lignée ou pas aujourd'hui, mais pourquoi cette attaque? Ces attaques, j'avais d'ailleurs écrit moi-même dans une revue en réponse, parce que manifestement, ces gens craignaient que Emmanuel Macron aille trop dans ce sens. Donc c'était une attaque préventive, d'autant que les fameux néoconservateurs, néocons résumés, qui sont tous sauf cons, c'est souvent des gens brillants, intelligents, intéressants, etc., bon, qui ont leur propre ligne, ils défendent l'idée qu'ils n'existent pas.
Oui, parce que
donc,
lorsque...
Ils sont à l'aise dans cette espèce d'obscurité, vous voyez, sous le radar par rapport à ça. Donc ils n'aiment pas cette mise à jour.
Le paradoxe, c'est qu'en fait, ils disent que le gaullo-mitterrandisme n'existe pas alors que le président de la République, fraîchement élu, s'en réclame, et que le néoconservatisme n'existe pas alors qu'ils appliquent eux-mêmes cette ligne et qu'ils vivent cachés.
Le gaullo-mitterrandisme qui n'est pas censé pas exister, existe assez pour qu'ils l'attaquent quand même.
Voilà.
Alors vous parliez d'état profond. Alors c'est un terme qui existe depuis très longtemps, qui avait été employé notamment, je crois, on le voit à propos des Pentagon Papers, puisque c'est tout le système, en gros c'est l'administration, quoi. C'est l'administration dans les domaines de la... pas que de la diplomatie, on pourrait parler de ça à propos des ministères des Finances, hein, aussi. Donc diplomatie, défense, les agences, le renseignement, etc. Et donc c'est quand une administration a sa propre position et qu'un président qui veut bouger, comme De Gaulle, hein, il y a très 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 longtemps, quand il a voulu développer la culture de la dissuasion à laquelle l'armée n'était pas du tout prête et réticente, bon, il veut bouger, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Alors certains se sont indignés de la comparaison, parce qu'on l'emploie aussi beaucoup à propos de la Turquie, l'administration kémaliste qui voulait résister à la réorientation islamiste. Bon, mais ça veut dire en gros que y a une administration qui ne suit pas forcément les impulsions du président. Certains ont trouvé ça choquant, mais bon, après tout, c'est une réalité. C'est pas forcément politique, mais ça nous renvoie à la question s'il y a une résistance dans l'administration française d'aujourd'hui sur le retournement de vapeur, quoi, de direction que veut lancer le président. On va le voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est la suite. Comment se passe la mise en œuvre de cette orientation, qui, si j'ai bien compris, est une orientation à long terme. Il ne s'agit pas de brusquement de re-rencontrer Poutine, d'obtenir des résultats miraculeux dans la semaine qui suit. C'est un processus. L'idée d'essayer de reconstruire un cadre, un processus autour d'une architecture européenne de sécurité, ce que même Kissinger regrette qu'on n'ait pas fait. Même Kissinger. Bon, c'est un processus à long terme. Évidemment, ça inquiète les Polonais, les Allemands, toutes sortes de gens, les Américains sont jaloux. On ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas du tout, indépendamment des résistances internes. Mais l'enjeu, à mon avis, mérite d'être tenté. Donc personnellement, j'approuve absolument cette tentative et je pense que ce n'est pas une inflexion. Je pense que c'est une volonté de réorientation.
Comment vous expliquez cette crispation presque 30 ans après la chute du mur de Berlin sur la Russie qui est... perçu comme une sorte de simple continuation de l'Union soviétique, en lui prêtant d'ailleurs y compris une puissance qu'elle n'a peut-être pas.
Il me semble que, après, la chute du mur, c'est une date exagérée, qui est émouvante, mais ce n'est pas la date clé. Disons, après la fin de l'URSS, il me semble que beaucoup de forces aux États-Unis, partant de là, se sont dit, c'est terrible que nous n'ayons plus d'adversaire principal. Vous vous rappelez de la déclaration historique d'un conseiller de Gorbatchev? Disons aux Américains,
Arbatov
va vous faire un coup atroce, on va vous priver d'ennemis. Alors le système américain ne veut pas être privé d'ennemis. État profond, complexe militaire ou industriel, comme disait Eisenhower, c'est la même chose. Donc ils ont besoin de maintenir l'idée que la Russie est effrayante et repoussante. Alors il y a eu une combinaison d'ailleurs, parce que après la fin de l'URSS, début de la Russie, je pense qu'on a l'Occident était idiot avec la Russie, l'a traité comme quantité négligeable, alors que Poutine était relativement pragmatique et disponible dans les deux premiers mandats. Après, non. Bon. Mais pour le système américain, c'est formidable d'entretenir l'idée d'une Russie menaçante. Alors, il faut évidemment un peu tirer les choses par les cheveux, parce qu'elle est beaucoup moins forte que l'URSS, beaucoup moins menaçante. Elle s'ingère beaucoup trop, mais beaucoup moins que faisait l'URSS. Bon. Donc, ça, c'est disproportionné. Alors, moi, j'ai une thèse là-dessus, c'est que quand l'URSS s'est effondrée, en gros, on a dit on a gagné. Vous rappelez, la fin de l'histoire, on a gagné par chaos. Oui. Bon. Donc les autres, on s'en fiche, ils sont marginaux, ridicules. Et les Russes étaient censés devenir des sortes de, comment dire, de sociaux-démocrates scandinaves, quoi, des choses comme ça. Ils sont restés russes. Ils sont quand même, au minimum, très patriotes, si ce n'est nationalistes. Et puis ils considèrent que l'Ukraine est russe, et puis alors, surtout la Crimée, enfin, tout un ensemble. Donc il y a une espèce de frustration horrible en Occident, en disant, mais c'est incroyable que ces gars-là ne soient pas laissés normaliser. Et donc il y a une sorte de réaction arrogante, possessive. Ça rend service que ce soit un adversaire. Encore une fois, si j'étais balte, je me méfierais. Hein. Je ne dis pas du tout qu'il faut négliger la menace que représentent les Siloviki, tous les systèmes russes. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ça conduit à une impasse ridicule. Et à mon avis, Ça a servi jusqu'à ce qu'arrive cette grosse brute de Trump, qui est répugnant sur le plan personnel, mais qui n'a pas tort sur tous les points en géopolitique. Ça a servi à ne pas voir le grand défi chinois. Parce que ça, c'est tellement énorme. C'est tellement plus gros. C'est tellement plus terrorisant. On sait tellement pas quoi faire que le système a continué à entretenir son adversaire principal, tellement commode, la Russie, et Poutine décrit sur des jours sans arrêt repoussant. Puis il donne un peu quelques éléments dans ce sens. Et ça permettait de ne pas voir la Chine. Et il fallait vraiment de grosses brutes incultes qui arrivent et qui disent « Non, non, le problème, c'est la Chine. » Et aujourd'hui, même Kissinger, qui était l'inventeur de la géniale politique chinoise de l'Amérique contemporaine, il dit « Je reconnais qu'il n'a pas tout à fait tort sur la Chine. Il veut garder un lien stratégique quand même, mais bon. » Donc voilà pourquoi la menace russe était tellement entretenue, plus le fait que l'Occident est revenu au manichéisme, c'est le combat du bien contre le mal, donc c'est assez facile d'alimenter ça, mais ça n'a rien à voir avec une politique étrangère sérieuse, tout ça.
Alors, dans son discours, Emmanuel Macron a dit que ça serait une erreur de pousser la Russie dans les bras de la Chine, ce que disent aussi aux États-Unis des gens comme Stephen Walt ou John Hirschmeyer, que si la Chine est le défi principal, autant ne pas consolider par des alliances.
Oui, c'est des réalistes, justement.
Et c'est des réalistes, justement. Voilà. Et il a également eu cette parole, quand même, dire « nous devons être l'allié minoritaire, ni des États-Unis, ni de la Chine », on était un peu sur le même plan. Comment voyez-vous que la France peut jouer sa relation avec la Chine du fait de la disproportion du poids? Lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, on s'en rappelle d'ailleurs moins, il fait un premier déplacement juste avant son élection en Chine, mais à l'époque, la France a à peu près 3 fois le PIB de la Chine. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est même strictement l'inverse.
Oui, d'ailleurs, dans le voyage en 83 en Chine, j'étais preneur de notes, moi, dans l'entretien entre Mitterrand et Deng Xiaoping, quand Mitterrand avait dit, par courtoisie, je pense, « Un jour, la Chine aura beaucoup à nous apprendre ». Deng avait souri en disant oh, « Je vous remercie, peut-être un jour, dans très longtemps ». Bon, ça a été relativement vite après, par rapport à ça. Mais je ne crois pas que la tentative de reconstruction d'une politique étrangère française, qui soit pas simplement enfermée dans une guerre de position. Vous savez, on prend position sur plein de trucs, donc maintenant on prend une guerre de position, c'est une guerre tranchée, quoi. Une politique qui redevient dynamique, offensive, mouvante, c'est pas la question numéro un, ça. Parce que la France, honnêtement, reconnaissons-le, n'a pas de solution à comment endiguer la Chine tout en gardant des relations fructueuses et correctes avec elle. Évidemment, on peut faire des références à l'idée indo-pacifique et s'intéresser aux Japonais, aux Coréens, aux Vietnamiens, aux Australiens, l'Inde et compagnie. Mais non, le vrai enjeu pour nous, c'est de retrouver un peu plus d'autonomie mentale et opérationnelle avec les États-Unis, amis, alliés, pas alignés, et qu'après on remette en marche un processus qui permettrait à l'Europe dans quelques années, mais si possible avant l'élection américaine, donc encore plus court que ça, d'avoir sa propre idée sur qu'est-ce que c'est que la sécurité en Europe, avec les États-Unis toujours, mais avec la Russie. Donc là, il y a une opération que la France essaie d'enclencher, qui me paraît d'une importance stratégique. Et je dirais que la question de la Chine va se poser après. Donc dans l'immédiat, ce qu'on pourrait faire les Européens, quand même, c'est de faire comprendre aux pays d'Europe qui entrent dans le jeu des sommets chinois, vous savez, 16 ou 17 plus 1, où la Chine récupère les pays dans lesquels...
L'Europe balkanique et centrale.
Ouais. Oui, la Grèce, des pays comme ça. C'est quand même incompatible avec une tentative d'élaboration d'une position européenne homogène. Donc ça pourrait quand même se dire, non pas aux Chinois, mais aux Européens. Mais je ne pense pas que ce soit la priorité de redéfinir globalement la relation avec la Chine. Il faut prendre plus de précautions dans tous les domaines que l'on connaît. Mais la reconstruction passe par les deux autres étapes avant, je crois.
Dans ce monde turbulent de crise des conflits que nous décrivons dans l'Atlas, et dans un monde où la place relative de la France diminue naturellement par rapport à l'émergence des autres, vous aviez dit quittant l'Élysée en 95 qu'aucune des évolutions stratégiques naturelles n'est favorable à la France naturellement. Comment faire encore entendre une voix spécifique? Comment faire encore valoir une approche française de la géopolitique?
D'abord, l'évolution du monde n'est pas mécaniquement favorable aux Occidentaux en général. Ils ont dominé et conduit les affaires du monde pendant 3-4 siècles. Après, il y a eu les décolonisations, qu'on a essayé de, ceux qui ont essayé de revenir un peu à travers les théories de l'ingérence, mais enfin, ça ne marche pas tout ça. Donc c'est global, c'est pas que la France. Mais je partirai pas de l'idée comme une sorte de vieil acteur ou vieille actrice un peu frustré qu'on lui propose pas de rôle. Comment j'ai un rôle spécial, moi, bon. Non, on a des intérêts vitaux à défendre, quoi qu'il arrive. Ça serait la même chose si on était 10 fois plus gros, 10 fois plus petit. Donc moi, je ne pars pas de l'obsession de la singularité.
En plus, la singularité, ça se prête la même... Est-ce que vous ne pensez pas que la France pèse plus que son poids objectif ?
Oui, bien sûr, oui. Elle pèse beaucoup plus, bien sûr, qu'avant, mais ça n'a pas changé, ça. Mais je ne pars pas de l'idée qu'il faut absolument dire des choses originales. Si on a une idée absolument géniale pour régler des problèmes sur lesquels les autres se cassent les dents, tant mieux, on va le dire. Ce n'est pas la peine de le proclamer à l'avance. Bon. Donc, je pense qu'il faut qu'on retrouve le sens des intérêts bien compris, à court, moyen et long terme, et que naturellement ça comprend nos principes, nos idées, ce qu'on appelle les valeurs dans le langage d'aujourd'hui, mais ça ne peut pas se substituer à la défense des intérêts. D'ailleurs, un pays qui est incapable de défendre ses intérêts, quand il parle des valeurs, les autres ne l'écoutent pas. On peut se faire écouter à usage interne, dans l'opinion interne, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour moi le cheminement. Après, on verra bien. Si on a une idée extraordinairement originale, par exemple, pour relancer au Proche-Orient l'amorce d'un processus, il n'y en a plus depuis des années. Tout le monde a baissé les bras. Hein ? Et on voit bien la situation. Si la France avait une idée géniale, elle la mettrait en avant, dirait, tiens, la France a une idée originale qui peut-être peut fonctionner. On va voir. Dans l'affaire iranienne récente, je trouve astucieux l'idée d'avoir invité l'Iranien en marge du G7, pas dans le G7, je trouve ça assez habile de l'avoir fait sans que Trump se mette en colère et reparte aussitôt. Donc c'est bien joué. Mais ça ne peut fonctionner que si ça renforce suffisamment les modérés en Iran, qui étaient marginalisés par l'évolution. Toute la politique de Trump, en fait, sert énormément les Pasdaran, tous les extrémistes, ils adorent ça. Donc il est revenu au premier plan en disant « les modérés chez nous, Rouhani, ont échoué ». Si l'idée française peut leur redonner un peu de souffle, suffisamment, pour qu'ils acceptent de rouvrir la négociation sur l'accord d'Obama, sur certains points, pas sur tout, je ne vais pas me substituer à eux. Comme l'obsession de Trump, ce n'est pas du tout de faire la guerre à l'Iran, il ne va pas faire la guerre d'ailleurs, où que ce soit, c'est pour ça qu'il vire Bolton. Hein. À ce moment-là, il peut y avoir, ça peut enclencher quelque chose, vous voyez. Mais sinon, ça ne marchera pas. Mais c'est le rôle de la France, puisque vous parliez d'un rôle un peu spécifique, c'est pas le rôle de la France de plastronner ni de proclamer qu'elle est spéciale, mais c'est de trouver des approches originales sur plein de sujets. Et si elle ouvre la voie sur la Russie à une redéfinition intelligente et réaliste de notre voisinage avec la Russie, ça sera formidable. Voilà comment je vois son rôle.
Les Européens ont gardé un front commun sur le problème iranien, à la fois en dénonçant la dénonciation de Trump de cet accord et en restant solidaires sur le fait de trouver une solution, même si dans les faits, il est quand même difficile de dépasser l'interdiction de Trump. On a aussi un nouvel exécutif en Europe qui a l'apparence d'une plus grande mobilité et d'une plus grande volonté. Le fait que Mme Den Leyen ait parlé d'une commission géopolitique, est-ce que vous pensez que l'Europe a pris, du fait du facteur Trump, du fait du facteur chinois, du défi russe, que l'Europe s'oriente un peu plus vers une autonomie stratégique que beaucoup appellent de leur vœu, mais que l'on ne voit pas beaucoup ?
Un tout petit peu. Je le souhaite beaucoup, comme vous, hein, depuis longtemps. Je l'espère. Mais c'est quand même fragile. Donc est-ce que l'Europe va cesser d'être, ce que je disais il y a 25 ans, l'idiot du village global, notamment en matière commerciale ? Je le souhaite. Est-ce qu'elle va cesser d'être une sorte de bisounours dans un monde de Jurassic Park ? Je le souhaite aussi. Ou comme l'a dit merveilleusement bien Sigmar Gabriel, ce qui ne veut pas que je cite que mes propres formules, Sigmar Gabriel a dit il y a quelques mois, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Et bientôt, on va être des véganes, et ensuite, on sera des proies. C'est encore plus intéressant qu'un ancien ministre allemand dise ça qu'un Français. Mais c'est très fragile. Quand Mme Merkel avait dit, après avoir vu Trump, on ne peut plus compter sur eux, en fait. Il faut qu'on s'organise mieux entre nous. Ça n'a rien produit, en fait. Donc c'est très, très, très fragile.
C'est pour vous, le facteur, c'est le clé, c'est la position de l'Allemagne ?
Non, c'est le mental, comme on dit chez les sportifs. Ouais. Chez tous les Européens. Ils ont vraiment cru après la fin de la guerre, avec l'Alliance. Toute la construction européenne, on l'oublie, s'est fait sous l'abri de l'Alliance. Et puis, c'était très intelligemment poussé par l'Amérique de l'époque, plan Marshall, etc. Bon, les Européens ont conclu qu'ils étaient débarrassés de la question stratégique, que c'était fini. Et si la Grande-Bretagne et la France ont gardé ça, au début, c'est que pour des raisons coloniales. Après, c'est transfiguré par De Gaulle, d'une autre façon. En tout cas, c'est pas dans l'ADN. Ça n'a jamais été dans le projet européen d'origine de faire une puissance. Jamais. Jamais, jamais. Donc, il y a toute une conversion à faire. C'est pas évident. Depuis au moins Mitterrand, il y a eu des centaines de colloques sur l'Europe de la défense. En gros, ça n'a rien donné parce que les Européens ne veulent pas lâcher le système actuel. Ils veulent pas dépenser plus. Ils ne sauraient pas comment transformer les armées en armées combattantes. On ne saurait pas qui met à la tête ni qui donne les ordres. Donc c'est pour le moment insoluble, sauf si en effet il y a un effort dans le sens que vous indiquez et qu'ils se disent tous on va constituer enfin le pôle européen de l'Alliance. Gardons l'Alliance, c'est mieux. Et ça sera apprécié par les Américains qui trouvent le fardeau trop lourd. Mais ça, c'est une martingale. Enfin bon, vous voyez, on n'en est pas là. Donc je crois qu'on est au début d'un processus qu'il faut nourrir par des arguments très convaincants, pas par des discours, par des arguments très convaincants, pour expliquer aux gentils boy scouts européens que la communauté internationale, c'est pas pour tout de suite. Et qu'il faut donc que l'Europe se métamorphose en un acteur géopolitique. Une puissance raisonnable, pacifique, mais pas pacifiste, vous voyez. Bon, je suis pour, hein, mais il y a du chemin à faire encore. Et on verra bien si la commission von der Leyen va dans ce sens.
Mais disons que c'est un projet français ancien, depuis De Gaulle, nourri par Mitterrand également.
Oui, ça n'a pas marché.
Et ça n'a pas marché, mais est-ce que le facteur clé, un changement de l'Allemagne, vous citiez Mme Merkel horrifiée par l'attitude de Trump, est-ce que cela peut faire changer les Allemands? Rappelez-vous quand même que lorsque Gerhard Schröder était chancelier, il s'est opposé avec vigueur à la guerre d'Irak.
Oui, mais il suffit pas de sauver. C'est très bien d'ailleurs. Si Schröder avait été resté chancelier, toute la suite, on l'a oublié, hein, de la relation franco-allemande et européenne aurait été différente. Et donc de la relation euro-russe, euro-américaine. Il y aura un scénario écrit. Bon, ça s'est pas produit. Ça s'est pas produit. Et il suffit pas que Schröder ait eu raison avec Chirac sur l'affaire de l'Irak pour que les Allemands dans leur ensemble comprennent, et les autres, les Danois et tout le monde, comprennent que l'Europe ne peut plus se permettre de ne pas être une puissance. Donc c'est pas fait encore. Mmh. Il reste un travail énorme à faire en étant très très convaincant. Regardez dans l'affaire russe, c'est pas étonnant que les Polonais et les Baltes s'inquiètent de l'ouverture française. Mais en quoi est-ce que c'est incompatible de recommencer à parler avec la Russie comme Kissinger faisait avec l'URSS, hein, tout en assurant la sécurité des Baltes et des Polonais? Il n'y a aucune contradiction. En fait. Donc il faut avancer pas à pas, démontrer pas après pas que c'est une approche qui vaut le coup. Mais au point de vue des mentalités européennes, peut-être vous avez raison, il y a une petite disponibilité plus grande qu'il y a quelques années, y compris en Allemagne, mais c'est encore très 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 faible. Il ne faut pas considérer ça comme acquis, pas encore.
Merci Hubert Védrine pour ce tour d'horizon et ce débat sur une éventuelle nouvelle étape dans la diplomatie d'Emmanuel Macron.